Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Oui, Gérard Gachet, donc Paris a été sans pitié pour la droite, pour le Rassemblement National et pour Thierry Mariani, que nous avions, le candidat RN que nous avions reçu ici même, pour Sarah Knafow aussi, d'ailleurs, dans une certaine mesure, et même pour Rachida Dati, puisqu'elle a finalement été battue. Est-ce que la droite doit faire une croix sur Paris?
La question se pose, et d'autant plus que, si je prends les Républicains qui étaient sur Paris, le parti essentiel de la droite, les Républicains se sont tirés non pas une, mais un certain nombre de balles dans le pied. Il y a d'abord eu la réforme de la loi PLM, la loi Paris-Lyon-Marseille, la réforme voulue par M. Bayrou, par M. Sylvain Maillard, leader de Renaissance sur Paris, par M. Macron lui-même et par Mme Dati. Et cette réforme, en créant notamment des votes d'arrondissement en créant un vote spécial Paris en plus des votes par arrondissement, devait bénéficier à Rachida Dati, dont la notoriété était censée être plus forte que celle d'Emmanuel Grégoire. Le résultat montre que c'est exactement l'inverse qui s'est passé et que cette réforme n'a pas bénéficié du tout Rachida Dati. Alors en plus, cette réforme a créé une décorrélation entre le vote sur la liste Paris et les votes sur les listes d'arrondissement. Et cette décorrélation elle-même a été néfaste à la liste de Rachida Dati. D'ailleurs, celle-ci, bizarrement, ne comprenait aucun des maires d'arrondissement, des maires adjoints d'arrondissement sortants, sur la liste centrale de Paris. Donc c'était une liste hors sol, composée de notables ou de gens placés là pour des raisons de relations personnelles. Mais cette liste hors sol, on arrive au résultat paradoxal. Souvent dans les arrondissements, les listes locales d'arrondissement LR faisaient mieux que la liste centrale de Dati sur Paris, sur le même arrondissement. C'est quand même extraordinaire.
Incroyable.
Et donc à l'arrivée, on a des chiffres absolument terribles, puisque sur 163 conseillers de Paris, la gauche en gagne 15, pour arriver à un total de 112, dont 9 LFI, qui n'y en avait pas auparavant, donc 103 faisant partie de la nouvelle majorité d'Emmanuel Grégoire. La droite en perd 15 et retombe à 51 conseillers de Paris. Mais pire encore, au sein de la droite, les macronistes, c'est-à-dire Renaissance, le Modem, Horizon et l'UDI, en gagnent quand même 11, et c'est LR qui en perd 26, soit quasiment la moitié de ses effectifs parisiens. Donc, LR, c'est vraiment, quand je dis qu'ils ont tiré une balle dans le pied, c'est pas pour rien. Et puis enfin, ça amène évidemment ces résultats aujourd'hui à une remise en cause de la personnalité de la candidate qu'était Rachida Dati.
Et oui, tout ça pour ça. Très, très intéressante analyse. Damien Chalamel.
Non, mais j'abonde dans votre conclusion et ça amène quand même, ça devrait quand même amener les LR ou ce qu'il en reste à se poser un certain nombre de questions sur la raison pour les mauvaises raisons qui les ont amenés à pousser la candidature de Rachida Dati. Parce qu'il y avait quand même au sein de LR, et je mets à part donc le député la centriste, enfin le Bournazel, là, je sais plus comment
ça s'appelle,
le responsable politique centriste, il y avait quand même au sein, je dirais, d'une droite plus ou moins authentique, Pierre-Yves Bournazel, d'autres candidats possibles. Moi, j'avais pensé personnellement à Francis Spinner. Bon, c'est quand même sidérant de voir, au-delà de la réforme, que l'aveuglement dont a fait preuve l'appareil politique local LR.
Alors
pour
c'est vrai que
Madame Dati, quoi.
Ça peut s'expliquer aussi en partie parce que Rachida Dati, après sa défaite de 2020, était restée sur place, avait animé pendant 6 ans, assez courageusement d'ailleurs, assez fermement, l'opposition au Conseil de Paris contre Anne Hidalgo. Et donc c'est vrai que ça ne se décrète pas, ça ne se crée pas d'un moment à l'autre un candidat LR sur Paris.
Ça aurait été qui? C'était pas elle,
voilà,
pour les RN.
Pensé à Michel Barnier, mais finalement, il s'est vite contenté du siège de député qu'il avait conquis et il a fait.
Et Francis Spinner, vous y avez pensé?
Mais bien sûr que on y en fait. Mais il y avait, semble-t-il, Francis Spinner avait beaucoup de caractéristiques intéressantes. Il avait d'abord une réussite professionnelle, personnelle, qui faisait qu'il avait une stature réelle, une indépendance en plus vis-à-vis de la politique. Il souffrait peut-être d'un manque de notoriété personnelle sur Paris, sur l'ensemble de l'électorat parisien. qui l'a conduit à ne pas... Mais à un moment, il y a, je pense, lui-même pensé, mais bon, il n'est pas... Et puis LR a choisi d'investir Rachid Eldati. Et donc, comme au sein de LR, il y a encore, chez certains d'entre eux, pas tous, mais il y a encore un sentiment d'obéissance par rapport aux instances du parti et de discipline, et ben, une fois qu'elle a été investie, d'ailleurs, elle a été investie, elle avait fait un forcing pour être investie, une fois qu'elle l'a été... Bah, tout le monde est rentré
peu dans le rang. Est-ce que ce n'est pas aussi un des derniers avatars pathétiques du sarkozysme finissant ? Une des dernières lucioles du sarkozysme
finissant. Cet échec de Dati.
Oui, bien sûr. Parce que,
c'est une dernière luciole du macronisme finissant. Oui. Sarkozy n'est pas vraiment intervenu très directement dans
la campagne
municipale parisienne, même si on peut penser qu'il avait encore certaine affection pour son ancienne collaboratrice, Rachida Dati.
Gérard Gachet, j'ai une question pour vous. La gauche est-elle indétrônable à Paris? Est-ce que la droite, encore une fois, doit faire une croix sur Paris? Parce que là, l'échec est quand même massif. Hein.
L'échec est massif.
On n'est pas à 133 voix. Là,
l'échec est massif, alors que il semblait, on disait, entre les deux tours... Les planètes s'étaient alignées pour la droite, soi-disant, puisque le centre avait fusionné, mais le centre a fusionné à sa manière. C'est-à-dire, il a dit oui, on fusionne, mais on s'en va, puisque M. Bournazel, M. Clément Beaune et quelques autres figures notables de ce centre macroniste sont repartis. Bon, il y a une fusion avec Sarah Knafo. Elle a eu un geste d'ailleurs extrêmement digne et courageux. Il n'y a pas eu de fusion, mais elle a appelé à voter, même pas pour Rachid Eldati, mais contre la gauche, malgré tout. Et on peut penser d'ailleurs que ses électeurs ont été beaucoup plus disciplinés que ceux de M. Bournazel. Voilà. Ils ont été... Mais ça n'a pas suffi. Et donc finalement, il y a quand même une évolution sociologique de Paris. On l'avait déjà vu constater en 2020, mais il y a des gens qui s'est alourdi. D'ailleurs, on constate le même phénomène dans beaucoup de grandes métropoles mondiales.
On parlait de Rennes.
Même mondiale. À Londres, à New York, etc. Ouais. Donc, ça devient extrêmement difficile dans ces grandes métropoles mondialisées, ouvertes, totalement...
Pour des raisons différentes, parce que d'abord il y a une partie...
Mais totalement cosmopolite, quoi.
Il y a une partie de logements sociaux, etc., qui font venir des gens qui structurellement votent à gauche, et puis aussi et surtout, je pense, mais vous me direz ce que vous en pensez, parce que une partie des habitants de ces grandes villes sont complètement mondialisés, déconnectés par rapport aux enjeux de la politique de la France.
Certains d'entre eux, mais les logements sociaux, on parlait d'ailleurs de la loi SRU instituée par Jospin à son époque, et ben on voit aussi ses effets, parce que c'est pas pour rien d'ailleurs qu'Emmanuel Grégoire se propose de porter ce taux à 40% de logements sociaux, appuyé en cela par les communistes, par Yann Brossat, par beaucoup d'autres. Donc ça va être extrêmement... Il faudra une personnalité à la fois très forte, mais en même temps très rassembleuse, pour arriver à avoir un espoir de reprendre un jour Paris, mais ça ne sera pas fait d'ici demain.
Et ça pourrait être qui dans votre casting
au jour d'aujourd'hui?
Vous Gérard Gachet. Moi, je vote Gérard Gachet, en tout cas.
Inès Carayon.
Inès Carayon, absolument, qui est très courageuse, notamment sur cette histoire de crèche, qui a pris ce dossier.
Voilà une belle candidate, jeune et pleine d'allant.
Absolument, Inès de Raguenel Carayon.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a à peu près 150 000, cadres moyens qui votaient à droite en moins dans Paris et qui ont été remplacés donc par essentiellement des logements sociaux. Donc c'est toute une population qui ne peut plus vivre dans Paris parce que l'immobilier y est trop cher et qui est partie en périphérie, notamment beaucoup dans les Yvelines, je crois, et ça explique...
Et les Hauts-de-Seine.
Et donc ça explique la perte de 150 000 personnes, c'est énorme. Et donc ça explique le changement de sociologie.
Parce que les logements sociaux... Ouais,
c'est vrai que Paris se dépeuple.
Oui, mais les logements sociaux, à eux seuls, n'expliquent pas tout. Le logement social n'est pas une mauvaise chose en soi, mais tout dépend des politiques d'attribution et de qui on
met
dedans. Si on met des gens qui travaillent dans l'arrondissement...
C'est ce qu'on entend quand on en parle.
Voilà, des infirmières, des postiers, des policiers qui travaillent et qui veulent habiter près de leur lieu de travail... Ça, c'est très positif. Si on y met des gens qui n'ont aucune attache à l'arrondissement, qui ne sont même pas heureux forcément d'être à cet endroit-là, préféraient avec des gens plus proches d'eux ailleurs, on n'arrive pas à obtenir la moindre adhésion communautaire à la communauté nationale ou à la communauté de la ville ou du quartier dans lequel ils habitent. Donc ça ne va pas.
Aucune attache à l'arrondissement ou à la ville ou à la France. Parce que c'est quand même un peu de ça qu'il s'agit. Mais ce qui est quand même troublant, c'est le cas aussi dans un certain nombre de grandes villes françaises. On voit bien que toutes ces villes résistent beaucoup, non seulement à la droite patriote, mais à la droite tout court, puisqu'elles étaient passées écolo. Il y en a eu très peu, finalement, qui ont été gagnées par la droite, absolument.
Oui, c'est l'analyse de Jérôme Fourquet qui oppose les grandes métropoles au reste de la France et d'une France périphérique et plus globalement une archipélisation, pour reprendre les termes de Jérôme Fourquet, c'est-à-dire de plusieurs Frances qui vivent côte à côte et qui génèrent leur propre logique, mais dont elles ne sortent pas, quoi.
Ouais, absolument.
Ce sont des enclaves, en fait.
Oui, ce sont des enclaves mondialistes dans des pays. Des gens, on a l'impression qu'ils ont perdu complètement leurs racines, quoi. Ils ont oublié leurs racines. C'est terminé. Alors, nous avons quelques auditeurs qui nous ont appelés. Alors, une auditrice, une fidèle auditrice de notre émission en partenariat avec Boulevard Voltaire. J'apprécie particulièrement toute cette bande de joyeux lurons, nous dit-elle. Et la spécificité de cette émission, entre autres, c'est le tour de table, mais pas seulement. Merci beaucoup, chère auditrice, ça nous fait plaisir. Voilà. Je déplore simplement, nous dit cette auditrice, et je suis d'accord avec elle, qu'aucun d'entre vous n'ait mentionné dans son tour de table la petite Noélia de 25 ans qui a été euthanasiée hier soir à 18h. Ça s'est passé en Espagne, bien courtoisement, nous dit cette auditrice. Et c'est vrai que c'est particulièrement touchant, cette histoire, et plein d'enseignements.
Et glaçant,
c'est vraiment effrayant. Donc l'État n'a rien pu faire pour la protéger des auteurs du viol dont elle...
Viol collectif
par des migrants.
Dans un centre
qui l'ont poussé à se défenestrer, cette pauvre petite. Et par contre, on l'aide à se suicider. L'État est là, pour le coup, pour l'aider à perdre sa vie.
C'est absolument...
Poignant, l'État socialiste, c'est terrible. Je sais pas. Est-ce que
non, mais c'est effectivement, non, mais c'est atterrant et c'est quand même une des rares lois avec le mariage gay, ces deux mandats d'Emmanuel Macron qu'il faudra retenir, mais d'une marque noire, c'est cette loi sur l'euthanasie et le suicide assisté qui vient très bientôt et d'ici la fin du semestre, il sera, selon toute vraisemblance, adopté par l'Assemblée nationale seule, probablement, sans le Sénat. Mais peu importe, elle sera adoptée. Et voilà, on aura eu le mariage gay la PMA pour toutes, plus précisément, pour ce qui concerne M. Macron, et cette loi dite sociétale pour aboutir à ce genre de situation d'une personne qui a 25 ans, et qui ne voit plus d'issue à sa vie, certes diminuée, parce qu'elle est paraplégique.
Oui, mais qu'un visage charmant.
Que le suicide, parce qu'elle est manifestement dans une détresse absolue.
Ben, bien sûr, elle était. Voilà. Oui, Baptiste Mousseau.
Non, mais cette histoire, c'est
quand
vrai
que... Quand vous réagissez à votre âge, cette fille.
C'est une histoire qui m'attriste. Il faut savoir que l'État espagnol ne l'a pas protégée. Du tout. Par contre, a préféré protéger les personnes qui l'ont violée. Et ça, je trouve ça inadmissible. On est incapable de protéger ces citoyens, en fait.
Les indigènes.
Voilà, exactement. Incapable de protéger les Espagnols, on préfère aller protéger des migrants ici.
En quoi ont-ils été protégés par l'État espagnol ? C'est une question, hein.
Ils étaient dans un centre pour migrants et c'est là que Noélia a subi justement ce viol collectif.
Voilà, elle, elle avait été retirée à sa famille pour,
et après, c'est,
pour la protéger.
Voilà. Non, ils n'ont pas été protégés après, par les, après le viol.
Oui, voilà.
C'est ça ma question.
Oui, voilà, exactement.
Et déjà, la situation effectivement dans laquelle ils se trouvaient était déjà inadmissible.
Exactement. Oui, oui. Voilà, donc on est vraiment... on met le doigt sur la folie de l'époque, qui est quand même absolument... non, Philippe Charlaise.
Oui, oui, absolument. C'est,
ouais. Non, t'es quand même incroyable.
Terrible, terrible l'entraînement. Ouais.
Terrible cette histoire. Voilà, donc notre auditrice a tout à fait raison, nous en avons un petit peu parlé, on y reviendra peut-être. Et puis un autre auditeur nous dit un aspect qu'il faut aborder, celui des affrontements que va générer la politique menée avec un président issu du Rassemblement National ou d'un autre candidat qui voudrait lutter contre l'immigration avec risque de mort à la clé, car les antiracistes feront tout pour s'y opposer. Vous y êtes-vous préparé, demande-t-il. C'est un plan stratégique qu'il faut préparer.
C'est une, vraiment une très bonne question.
C'est une très bonne question. Ah, oui. Ça, c'est
une très, très bonne question.
Moi, ça, c'est certain. Moi,
je sais que ça ne vous inquiète pas.
Moi, c'est, non, moi, je
Damien Chalamel n'est pas OK.
Aucune crainte particulière. Je veux dire, bon, les LFI, est-ce qu'elle est ? Mais il ne faut pas croire qu'il y ait des millions de citoyens prêts à mettre la France à feu et à sang. Les extrémistes que vous voyez, les Black Blocs et autres, sont en réalité une infime minorité.
Oui, mais une infime minorité violente, ça peut créer des problèmes.
Mais cette infime minorité, elle n'est violente que parce qu'on...
Les nazis étaient 20 au départ.
Oui, d'accord, mais que parce qu'on la tolère. Que parce que le pouvoir est faible. Mais la police nationale, qui est à l'image du pays d'ailleurs, dans toute sa diversité, elle est tout à fait prête, elle n'a qu'une envie, croyez-moi, c'est de faire son travail. Et elle n'est pas pour autant empreinte. Enfin, si, certes, les forces de l'ordre votent plus national que d'autres. Mais il y a aussi des socialistes, même
mais
des...
Ça veut dire qu'il faut accepter d'avoir le courage d'aller au clash.
Je ne sais pas que c'est que le genre sur Radio Courtoisie, il n'y a pas ce mot-là, mais non, mais d'exercer l'autorité, je veux dire, effectivement, il y a la violence légitime, c'est l'État qui l'exerce.
Ah non, mais je ne.
Non, mais moi, je. Non, mais je ne sais pas.
Il faut une vraie volonté politique.
Mais bien évidemment,
pour
mais
mettre en jeu cette.
Il faut effectivement une fermeté, et je dirais une force d'âme. Je pense que c'est ce que nous gouvernement, ce dont
nous gouvernement avec Damien Chalamel,
manque le plus.
Que...
Alors on parle toujours de Malek Oussekine. Moi, je me souviens, j'étais aux premières loges quand ça s'est passé en 1986. C'est effectivement le syndrome de nos pouvoirs, de nos hommes politiques.
Donc Malek Oussekine,
Malek Oussekine,
hein,
qui était un pauvre, n'était même pas manifestant. C'était un passant lors des manifestations contre la loi de Vaquet. Loi de Vaquet, c'était l'autonomie des universités, la sélection à l'université. Hein. Ce qu'on a eu 20 ans après avec la loi Pécresse et maintenant avec ce système là, qui vous sélectionne.
Et donc Malek Oussekine.
Et donc ce brave Malek Oussekine, ce pauvre monsieur Oussekine, passant rue Monsieur le Prince, est tombé sur une brigade qu'on appelait à l'époque les voltigeurs. Comme il était sous dialyse, il a succombé sous les coups d'un de ces voltigeurs. Qui lui a asséné un coup de matraque télescopique, enfin, on appelait ça le bidule à l'époque. Voilà, et donc depuis cette époque, depuis la mort de ce manifestant, et qui a permis à la gauche, hein, qui venait de subir une défaite cinglante aux élections de 86, de mettre fin à non seulement cette loi de Vaquet sur la sélection de l'université, mais également à ce grand projet. Qui est pour moi une responsabilité historique immense de la droite, c'était la réforme du code de la nationalité que prenait à l'époque la majorité RPR, UDF, celle de M. Bayrou et consorts, hein, qui était sur ce plan-là aussi à droite, sinon plus, que le Rassemblement national
actuel.
Donc c'est la somme, effectivement, je dirais 40 ans après, de toute cette hypocrisie, à la fois sur cette réforme-là, le code de la nationalité, et puis sur la... Sur le caractère véritable.
Sur le fond de ce dossier, est-ce que tout cela mènerait à une guerre civile, en gros, ou presque,
mais
ou
civil, à une faction ? Il faut avoir deux camps. Je veux dire, je dirais LFI, par exemple, combien de divisions ? Ouais, voilà.
Je pense que la France a quand même encore l'autorité qu'il faut, la force.
Puis,
si elle le veut, évidemment, c'est,
bien évidemment, les forces de l'ordre, qu'elles soient, la
juste
police.
Juste un exemple, Damien, c'est. Moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est l'histoire du voile dans les lycées. Dans les lycées, le voile a été couramment porté. Gabriel Attal, qui n'est pas un membre de l'extrême droite identitaire la plus dure, on va dire, a décidé que ça ne serait plus le cas.
Ce n'était pas le voile, c'était la tenue islamique.
La baya. Voilà. Du jour au lendemain, plus d'abaya. Terminé.
Le voile, c'est la loi de 2004.
Ça a été terminé. Alors, certains élèves trichent un peu, etc. Mais enfin, en attendant, la règle a été acceptée. Il n'y a pas eu d'émeute. Et elle est, grosso modo, respectée.
Alors moi qui suis un ancien fumeur, je pensais également que lorsqu'on a prohibé le fait de fumer du tabac dans les lieux publics,
on a eu peur.
J'étais persuadé que ça ne passerait pas en France, qu'il y aurait le côté gaulois prévaudrait. Bah non, finalement.
C'est le côté gauloise d'ailleurs. Plutôt.
Voilà, le côté gaulois des gauloises. bon, mais non, il y a une discipline sociale. Et là, d'ailleurs, j'attends les nouveaux maires halogènes là en Seine-Saint-Denis, issus de LFI. Qui prône le désarmement de la police municipale, etc., etc. À l'épreuve des faits, j'attends de voir comment ces nouveaux édiles municipaux
À propos du désarmement des polices municipales, il y a une phrase extraordinaire aujourd'hui de monsieur Léaumont, comment il s'appelle?
Antoine Léaumont,
qui a dit, mais le maire de Saint-Denis, en annonçant qu'il allait désarmer la police municipale, il y en a déjà un certain nombre, plusieurs dizaines, qui veulent démissionner et partir ailleurs. Il dit, c'est bien, parce qu'il fait partir les éléments violents de la police, et en faisant ça, rien qu'en une journée, il a déjà augmenté la sécurité dans sa ville, puisqu'il n'y aura plus de violence à cause de ses policiers. C'est extraordinaire.
C'est incroyable. Où mène l'idéologie.
Mais il y a quelque chose, moi, je dirais,
Damien Chalamel,
ces élections, on a vu des scènes que certains considèrent comme c'était terrible, c'est-à-dire qu'on a vu des maires battus baisser la tête devant des foules haineuses. Et moi, je vais dire...
Mais oui, alors, on devait avoir un maire, je suis confus, on devait avoir un maire, monsieur Godilla, qui devait nous raconter cela. Yanis Godilla, c'est le maire de Billy-Montigny, 8000 habitants, là, dans le Pas-de-Calais, et il a eu une soirée très chahuté, on va dire.
Alors, c'est peut-être attristant pour ces maires pris individuellement.
Avec intervention de la police.
Mais,
voilà. Mais
je pense à quand même tous ces maires PS, PC, donc qui baissent la tête, qui partent la queue entre les jambes sous les huées. Il faut quand même voir une chose, c'est que ce sont des maires qui ont... Les indigènes locaux, les Européens de souche, baissent la tête depuis 50 ans dans leur commune. Ben voilà, la chair à canon électorale a enfin pris le pouvoir. C'est-à-dire, je les appelle les halogènes ou les Français d'origine extra-européenne, peu importe. Et maintenant, effectivement, ça n'est plus le tour. C'est plus les Français qui baissent la tête. Ce sont aussi les édiles qui les ont gouvernés et qui ont fait de ces villes des laboratoires d'une France du tiers-monde où, effectivement, l'Européen est totalement, ou quasiment exclu et n'a plus le droit de citer. Quoi.
Allez, question d'une auditrice, nouvelle question. Bonsoir, merci pour cette émission très intéressante, nous dit cette auditrice. Savez-vous si Jean-Michel Aulas a déposé un recours à Lyon?
Il l'a annoncé. Mais je ne sais pas si ça a déjà été tranché.
Ah non, tranché, non, on le saurait. Il faut que le tribunal administratif regarde tout ça.
C'est long, hein.
Il l'a annoncé.
Cet auditeur nous dit que Doucet a gagné avec, donc le maire de Lyon qui a été reconduit, a gagné avec 2762 voix d'avance seulement, ce qui est
soupçonne un certain nombre de fraude dans un certain nombre de bureaux, alors à suivre, on n'a pas d'informations là-dessus.
Mais 2700 voix d'écart, c'est à la fois peu peut-être au niveau de toute la ville, mais c'est quand même assez conséquent pour entraîner une annulation d'un scrutin. Il faut qu'on tient toujours compte de l'écart, justement. Il faut que l'écart soit très faible et que réellement les quelques irrégularités qui auraient pu être constatées, à condition qu'elles soient d'ailleurs vérifiées, soient susceptibles de remettre en cause le résultat scrutin final.
Oui.
Avec 2700 et quelques voix d'écart, c'est pas évident de trouver autant de contestations valides.
Oui, ouais, sans doute. Voilà, écoutez, on suivra cette affaire. Allez, nous allons parler des quatre vérités de Vincent Bolloré. Il était l'invité de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et franchement, on ne s'est pas ennuyé.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et nous allons parler donc de Vincent Bolloré, invité de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Nous sommes en compagnie de Baptiste Mousseau, journaliste à Boulevard Voltaire, de Philippe Charlès, que vous connaissez tous, de Gérard Gachet aussi, et de Damien Chalamel, qu'on ne présente plus. C'était ce mercredi 24 mars à l'Assemblée nationale, face aux députés de tous bords, Vincent Bolloré, qu'on ne présente plus non plus, comme Damien Chalamel, nous a donné à nouveau un cours professoral d'élégance, de drôlerie, de hauteur de vue et un cours de gestion aussi. On a trouvé cela assez extra, comme d'habitude, et on a décidé d'y revenir ensemble. Alors, je vous ai sélectionné quelques extraits, et ça sera l'occasion de parler en liberté des sujets qui sont abordés par cette commission et par l'actionnaire de Canal+, et de CNews, entre autres. Alors, je vais vous faire une vraie fausse interview de Vincent Bolloré. On va l'interroger donc, nous aussi, à travers ces quelques extraits. D'abord, Vincent Bolloré, pourquoi est-ce que vous faites tout cela ?
Je pense que la France est rentrée dans un moment de combat particulier eu égard à sa situation financière. Et que, nos chaînes, nos médias disent la vérité, en tout cas disent des choses différentes de ce que disent les autres, et que nous ne sommes pas complaisants, c'est normal qu'on dérange et qu'on veuille nous supprimer. C'est arrivé dans des tas de pays, dans des tas de périodes, j'allais même dire ça arrive tout le temps. M'interrogiez sur la caste, il y a toujours eu des castes dans tous les pays, dans tous les moments. La question c'est est-ce que vous êtes avec ou est-ce que vous n'êtes pas avec ? Il se trouve que je ne suis pas avec, mais je ne suis pas avec, pas parce qu'ils n'ont pas voulu que je sois. Je ne suis pas avec parce que j'ai des convictions. Voilà, je crois dans la France et dans les Français et Françaises, je crois en la religion, je crois à l'empathie, et je n'ai pas envie de compromettre ce groupe, et comme on est un espace de liberté, ben on a en effet un certain nombre de patriotes qui sont venus travailler dans ce groupe, et qui, je crois, y sont bien en général.
Voilà, on y reviendra avec lui. Il a beaucoup insisté sur les ennemis et les adversaires. Donc, il parle de caste, hein, il parle de différence, et il dit que c'est tout cela qui dérange, c'est surtout sa différence qui dérange. Ce qui, parlant d'un média, est quand même assez ahurissant, non ? Parce qu'un média d'opinion, il est là pour déranger. L'humanité, ça dérange aussi. Hein. Voilà, Libération aussi. C'est, un média ne peut plus déranger sans aboutir à une espèce de chasse à l'homme comme celle à laquelle il s'affronte, notre ami Bolloré, c'est quand même inquiétant, non, Philippe Charlès ?
Mais c'est tout ce qui fait la différence entre la droite et la gauche. C'est que la gauche, par construction, ne peut pas être pluraliste. Elle ne peut être que sectaire. Et donc, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est sectaire et qui n'admet pas le pluralisme, par définition, il ne peut pas être content.
Pourquoi vous dites qu'elle ne peut pas être pluraliste et,
ah ben la gauche
sectaire.
Ne peut pas être pluraliste, puisqu'elle ne croit qu'en une seule. C'est pour ça qu'il y a plus. D'ailleurs, c'est pour ça que la gauche arrive toujours à s'unir et que la droite n'arrive jamais à s'unir. C'est qu'il y a plusieurs droites. On le sait ici autour de la table. Moi, je suis plutôt un libéral thatchérien. Tout le monde ne l'est pas. Mais ça n'empêche qu'on peut discuter.
Mais on vous aime
à gauche,
comme ça.
Mais vous m'aimez comme ça. Ce que je veux dire, quand vous êtes à gauche, il y a quand même une chose qui les unit, c'est l'anticapitalisme. Et à partir du moment où vous n'êtes pas anticapitaliste, vous ne pouvez pas être ennemi. Donc quelqu'un comme Bolloré, par construction, malgré toute sa réussite, hein, il faut quand même savoir qu'il est parti de pas grand-chose. Je ne sais pas si vous savez. Le père ou grand-père Bolloré, la grande invention qu'il avait faite.
Si, c'était le papier.
C'était le papier carbone.
Ouais, papier carbone.
Et à un certain moment, l'entreprise ne s'est pas renouvelée. Le papier carbone a disparu à cause de la photocopieuse.
Et le papier Bible.
Et le papier cigarette. Papier, c'était OCB.
Il a rappelé aussi... ça. Ah, il avait... Vous savez, les petits papiers
c'était Bolloré. Moi, j'avais surtout retenu Bolloré le papier carbone. Donc, il a quand même fait une réussite exceptionnelle. Parce que ces médias, ça n'est qu'une toute petite part de son empire. Sa grande réussite, c'est tout ce qui est... c'était un empire de logistique. Il faut savoir que l'empire Bolloré gouverne toujours le port de Dakar, par exemple. Donc, c'est une entreprise absolument. Ah, je pense, oui. C'est
parce qu'il a vendu un certain nombre de ports.
Mais... Oui, il s'est désengagé pas mal de l'activité portuaire. Dakar, je ne sais pas, mais vous vérifiez. Oui.
Bon, en tout cas, c'est possible, je n'ai pas suivi ça. En tout cas, il l'a été, ça je suis certain. Et donc, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que Bolloré ne peut pas être accepté au même titre que Pouyanné ne peut pas l'être, au même titre que vous avez quelques têtes de Turcs comme ça, hein. On sort toujours.
Il va y revenir d'ailleurs, il dit, on aura un petit extrait où il dit voilà, je coche toutes les cases du vilain patron.
Il coche toutes les cases de quelqu'un que la gauche ne peut pas supporter de par son côté sectaire. Je le répète.
Et quand il parle de caste, Jarre Gaché, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ce qui m'a frappé, d'abord, il se trouve que j'ai eu le lendemain au téléphone, le lendemain de son témoignage devant la commission, sa déposition, j'ai eu un de ses proches au téléphone que je connais bien, et je lui ai dit combien j'avais été quand même séduit par la prestation de Vincent Bolloré. Il me dit en plus, tu sais, Vincent, c'est un bombardier furtif. Il me dit, il arrive... discret, poli, souriant, oui, j'ai beaucoup aimé, modeste, souriant, etc. Et puis, à un moment, boum, il lâche des rafales de missiles, au moment où on s'y attend pas. Alors, ça peut être au début, la présentation, effectivement, est humble, vous l'avez rappelé.
C'est tout à fait ça.
J'ai juste une histoire familiale, je suis un démocrate chrétien, je crois en Dieu et en Christ, je pratique l'écoute et le pardon, etc. Et puis, tout à coup, il dit, bon, écoutez, il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. Pascal Pro, il aime la France et les Français, ça plaît ou ça plaît pas, mais il bat quand même des records d'audience. Le Puy du Fou, c'est quand même beaucoup mieux que Euro Disney, et en plus, c'est l'histoire de France. Je regarde pas souvent la télévision, sauf bien sûr Canal+, au passage, il redonne les tarifs d'abonnement à Canal+. Et France Télévisions, il dit, c'est sympa d'aller à Cannes, après tout, ils font des fêtes sur les bateaux, ils vont dans des villas, c'est la caste. Et il dit, c'est sympa d'aller à Cannes, ils mangent des sardines grillées sur les plages du Carlton, c'est très bien. Ce qui m'ennuie, c'est que ce service public coûte 4 milliards d'euros par an avec nos impôts, etc. 4 milliards d'euros qui sont donnés à quelques-uns.
Il est en train de me faire toutes les missions d'avance.
Pardon, mais c'est vrai que c'est quand même, ça a été quand même un très grand moment parce que sous des airs, encore une fois, très gentil, très, très, très plaisant. En plus, il est sympathique quand il arrive. Mais alors là, quand il faut défourailler, il ne se gêne pas.
Il s'est envoyé à Scud.
C'est quand même un séducteur et un cabotin de première. Alors, on lui a posé une autre question. Évidemment, on lui a faussement posé. Est-ce que France Télévisions ne coûte pas quand même un petit peu cher? Vous en parlez, vous l'évoquez à l'instant. Il dit, je ne vois pas pourquoi le service public coûte tant d'argent à l'État. Hein?
On voit bien qu'il y a des tas d'endroits où on peut faire des économies. Alors bon, je vous dis, quand je suis arrivé chez Canal, tout le monde m'a dit c'est impossible de faire les moindres économies. On a fait 500 millions d'économies il y a 10 ans ou 12 ans. Ça ferait 1 milliard avec l'inflation de maintenant. Et franchement, c'était pas un truc très très compliqué. Alors en revanche, dire ça, vous mettez en cause toute une série de gens qui vivent, qui sont heureux de vivre ensemble, qui se reçoivent, qui passent leurs vacances, qui vont déjeuner, dîner, qui se font des projections de films. Là, vous vous attaquez à un truc terrible. Quand je suis arrivé d'ailleurs chez Vivendi, Jean-René Fourtou, qui était mon prédécesseur, et l'équipe m'a dit « Oh là, surtout, faut pas aller chez Canal, parce que Messier, c'est comme ça qu'il a sauté. » Je dis « Pourquoi il a sauté, Messier ?» Oui, il a voulu aller changer Canal, et là, il s'attaquait à changer Pierre Lescure. Alors là, c'était un déchaînement, voilà. Et donc, il faut quelqu'un de courageux pour aller... Parce que quand vous donnez 4 milliards à quelqu'un, ou à quelques personnes, quelques centaines de personnes, parce que c'est ça dont il s'agit. Malheureusement, si c'était tous les gens au-dessous. Mais je vous ai fait le calcul. Moi, je préfère que vous remettiez le service public à zéro et que vous sauviez les agriculteurs et les pêcheurs.
Alain Dumas sans Bolloré. C'est le bombardement dont parle Gérard Gachet. Voilà, comment se faire des
ennemis. C'est bien résumé, le fait de dire, c'est-à-dire effectivement, il faut réinjecter. Des moyens dans l'économie réelle, et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut baisser la dépense publique. Et donc, voilà, c'est David Listard ne dit que la même chose.
C'est ça. Et il parle de France Télévisions, hein, là, en l'occurrence. Et d'ailleurs, il y a un autre extrait dans lequel il racontait qu'il fallait que France Télévisions s'autofinance. Pour lui, il n'y a pas de raison de mettre 4 milliards dans France Télévisions, qu'avec de la publicité, il n'y a aucune raison qu'il ne s'autofinance pas. Voilà. Et avec de la publicité et des économies. Parce que c'est quand même le roi de l'économie, notre...
J'ai connu, je vais vous expliquer simplement. Tout le monde sait que moi, j'ai fait ma carrière dans un grand groupe pétrolier et français. On ne va pas le citer, mais tout le monde l'a compris. Et effectivement, c'est en 2014-2015 où le prix du baril s'est effondré, et le nouveau président a décidé effectivement de faire de vraies économies. Et donc on est passé de l'hôtel 5 étoiles à l'hôtel 3 étoiles. C'est vrai que c'est, je reconnais qu'il y a une différence, mais c'est comme ça, et puis on n'en est pas mort.
Est-ce que là, dans ce que dit Bolloré, on n'est pas au cœur de la différence entre le chef d'entreprise qui affronte et qui va prendre des décisions difficiles, impopulaires, terribles, qui vont le faire détester, etc. Et de ce point de vue-là, il a assez bien réussi à l'époque. Oui. Et l'homme politique qui est incapable de les prendre parce qu'il a besoin des voix.
On ne peut pas comparer la situation de quelqu'un qui est élu par son conseil d'administration et qui peut effectivement être descendu par ses actionnaires. Mais ses actionnaires ont tout intérêt à ce que la compagnie fonctionne correctement. Alors qu'au contraire, un chef d'entreprise n'est pas obligé de séduire. Il peut s'imposer, alors qu'un politicien est obligé de séduire. Ce sont quand même deux métiers très différents.
C'est tout
et
le problème.
Là, on ne peut pas être.
Mais oui, mais ils ont tous les deux des économies à faire, même dans les chaînes. À France Télévisions, il y aurait des économies à faire.
Mais par contre, j'ai tout à fait la parole comme vous me posiez la question à Damien, c'est que vous avez quand même des gens. Je vais vous donner deux exemples qui ont vraiment fait des économies dites à la tronçonneuse. J'ai commencé par Madame Thatcher et qui a été plébiscitée. Ah si, quand même. Et qui a été plébiscitée après. Et d'ailleurs, si elle a été après, si elle est partie, c'est pas du tout à cause de ses opposants, mais c'est de son propre parti. Et puis, on a l'exemple de Milei aujourd'hui, qui a effectivement fait des économies à la tronçonneuse et qui vient d'être plébiscitée. Donc ça veut dire que ça n'est pas parce que on se rend impopulaire qu'on n'est pas compris et qu'on ne peut pas être plébiscité.
Que nos hommes politiques vous entendent. Damien Chalamel,
oui.
Et puis Gérard Gachet.
Non, mais moi, j'apprécie pas nécessairement Vincent Bolloré surtout, mais là, effectivement, quand il parle de cette caste, il vise vraiment la gauche caviar. Et alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on est quand même sur une commission qui est là pour parler du financement de l'audiovisuel public. Et en réalité, en creux, et d'ailleurs, il l'a dit ouvertement, en suggérant, et je rejoins Philippe sur ce point, c'est que la gestion qui consisterait à faire de ces actifs de l'audiovisuel public, de les mettre, de les apporter à une société anonyme dont l'État serait actionnaire, et donc qui fonctionnerait peu ou prou sur des bases, sur des critères en vigueur dans n'importe quelle société commerciale, serait beaucoup plus saine, avec un actionnaire unique ou majoritaire qui resterait l'État. Mais effectivement, quand il parle de cette petite caste, Canal Plus, c'était c'était notoire. Il y avait un abus.
Il vivait sur un train de vie incroyable.
Voilà, c'est
Gérard Gachet,
grande époque.
Il y a une autre intervention de Vincent Bolloré que j'ai trouvée passionnante, c'est quand il a parlé du fonctionnement de l'ARCOM, l'autorité de régulation. Parce que il a dit comment fonctionne l'ARCOM, elle enquête, elle agit et elle sanctionne en fonction des signalements qui lui parviennent, des gens qui la saisissent. Bon. Et il a remarqué que, en ce qui concerne par exemple M. Cyril Hanouna, quand il était sur C8, les signalements affluaient pour dénoncer tel ou tel mot, tel ou tel comportement, qui n'était pas toujours d'ailleurs très sympathique, mais bon, les signalements affluaient, les amendes pleuvaient, et c'est même allé, rappelez-vous, jusqu'à l'interdiction, enfin au non-renouvellement d'autorisation d'émettre de la chaîne C8. Absolument. Et là, depuis qu'il est passé sur une autre chaîne, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, eh bien, il a le même comportement, il dit à peu près les mêmes choses. Il n'y a plus de signalement, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'est plus
c'est
sur...
l'effet Bolloré.
Il n'est plus sur C8, oui, c'est l'effet Bolloré à l'envers. On ne sait plus. Et donc, finalement, les choses sont reparties comme avant, sans que l'ARCOM s'en inquiète, ni s'en indigne. Donc, sur le fonctionnement de cette autorité de régulation, c'est particulièrement intéressant. Parce qu'il suffit d'une action concertée pour que des gens saisissent en bloc. Et on sait que nos amis de gauche et d'extrême gauche savent très bien faire ça. Saisissent en bloc l'ARCOM pour que les sanctions suivent.
Quand on voit les débordements parfois de l'émission quotidien, il n'a jamais été, alors qu'il y en a un des débordements. Oui.
Alors justement, on va comprendre tout de suite pourquoi. Hein, Bolloré intéresse aussi beaucoup l'ultra-gauche mélenchoniste. Alors, quelle sera la première mesure de LFI, réponse, si jamais ils arrivent au pouvoir, réponse du député LFI Paul Vannier?
Si vous cherchez quelqu'un qui remet en cause la liberté de la presse et qui porte atteinte aux médias, ce sont les milliardaires qui les possèdent. Hein. Parce que la question de la concentration des médias et des neuf milliardaires qui en
Paul Vannier, la responsabilité peut être partagée. Nathalie Saint-Cri, vous voulez vous interroger?
Nous l'avons dit, Jean-Luc Mélenchon l'a dit à cette occasion, notre première mesure, si en 2027 nous sommes au pouvoir, ce sera de proposer une loi pour démanteler l'Empire Bolloré. Voilà, comme ça tout le monde le sait.
Voilà, donc la première mesure de LFI, ça sera pas d'augmenter le SMIC, de s'occuper des ouvriers, ça sera de démanteler l'Empire Bolloré, ce qui montre
va de pair et qui n'est pas surprenant.
Ce qui confirme ce que vient de dire Gérard.
Je ne suis absolument pas surpris, ça va de pair avec le côté que j'ai toujours dit totalitaire et sectaire. Tous les totalitarismes, la première chose qu'ils ont fait, c'est démanteler la liberté de la presse et la liberté d'opinion. Que je sache, il n'y avait pas de téléconcurrente dans l'Allemagne nazie, dans l'Italie fasciste ou bien dans l'URSS stalinienne.
C'est ça.
Mais en plus, Bolloré commet un crime absolu, c'est que les médias qu'ils possèdent disent des choses que les autres ne disent pas forcément, mais en plus ils ont du succès, ils arrivent en tête des audiences.
Mais c'est leur seul tort.
Mais voilà, c'est ça, ils se traîneraient en queue d'audience, bon, les autres râleraient pour le principe, mais là ça plaît, et donc là c'est pas possible, il faut éradiquer, il faut décapiter, c'est ce que propose votre député LFI.
Et ça plaît et c'est populaire.
Il faut arracher cette chaîne aux mains de Bolloré. Il y a quand même un illibéralisme, comme on dit aujourd'hui, vraiment assumé, quoi.
Mais c'est la bête noire d'Emmanuel Macron.
Oui, parce que
c'est connu.
Ça répond quand même à un vieux réflexe en France. Il y a très longtemps, en dehors de l'aspect même politique des choses, on a déjà une méfiance, voire même une hostilité profonde envers les gens qui réussissent. Hein, qui s'appellent Vincent Bolloré, Bernard Arnault, François Pinault, autrefois Jacques Anquetil dans le cyclisme. On n'aime pas les gens qui gagnent.
Eddy Merckx.
Là on voit que justement Paul Vannier il parle de liberté de la presse.
Oui.
Mais quelle liberté? Quelle liberté en fait si LFI arrive au pouvoir? C'est-à-dire qu'ils vont démanteler tout ce qui n'est pas d'accord avec eux?
Pas de liberté pour les ennemis.
C'est comme ça qu'on garantit les échafauds, c'est
la définition du sectarisme.
Baptiste a raison, dans la même phrase, ils arrivent à défendre la liberté
de la presse et en même temps de dire
qu'il faut
on va démanteler des chaînes.
Mais écoutez, Hitler et Staline défendaient la liberté.
On voit bien
dans les mots, oui.
Voilà.
La liberté du peuple allemand.
Voilà. Je vous ferai remarquer que le stalinisme centralisme démocratique.
En fait, il nous parle tous les jours du retour des bottes noires contre la mauvaise extrême droite. Mais là, en fait, les bottes noires, c'est bien chez LFI.
Exactement.
Oui, mais les bottes noires et les bottes rouges n'ont jamais été différentes.
Là, en fait, trop d'honneur.
Les bottes noires ne viennent. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'a pas eu Drieu Goffredi parce que c'était un peu ça. Il explique très bien dans son livre qui s'appelle La passion de l'égalité que justement, les bottes noires ne viennent que des bottes rouges. Il y a une seule différence entre les bottes noires et les bottes rouges, c'est que les bottes rouges sont internationalistes et que les bottes noires sont nationalistes. Voilà.
Alors moi, je remarque aussi hein, qu'il veut arracher donc, les médias de Bolloré, mais pour les, d'autres médias privés, ceux de Mathieu Pigas, par exemple, ceux de Kretinsky...
Ouais, qui se méfie, qui oui, se
Kretinsky,
méfie
c'est Libération.
Qui se méfie quand même, parce
qui
que...
Finance. Là, on ne parle pas de privatisation. Comment dirais-je,
le totalitaire arrive toujours au pouvoir avec quelques amis, et la première action, après avoir détruit ses ennemis, détruit ses amis, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs aux communistes en Iran.
Absolument. Oui, mais la grande différence, Damien Chalamel, je vous dirais, Marc, c'est que pour Vincent Bolloré, c'est de l'audiovisuel. Alors que là, les titres que vous venez de citer avec ses actionnaires qui sont... Monsieur Kretinsky et Pigas, bon, c'est Le Monde et Libération. Donc c'est beaucoup, ça n'est pas vraiment contrôlable, sauf à bouleverser l'état de droit. Alors que
Pigas, il a quand même Radio Nova. Bon, c'est tout petit.
Oui,
hein,
ouais, c'est dérisoire. Qui écoute Radio Nova? Même Radio Courtoisie, à mon avis, a une audience très largement supérieure à Radio Nova. Bon, mais c'est dire.
C'est certain.
Bon. Et donc, non, alors que démanteler en utilisant une autorité administrative dite indépendante comme l'ARCOM, donc démanteler le groupe à coup d'interdiction, hein, tout simplement, le groupe audiovisuel Bolloré, et notamment supprimer l'autorisation d'émettre à CNews, c'est relativement facile, sans même recourir à des moyens extrêmes. Hein.
Ouais, faut pas oublier plus aussi l'émission l'émission quotidien qui est diffusée sur TMC, c'est le groupe TF1. Par exemple sur cette chaîne là,
personne ne parle de l'interdire à gauche.
Non, on a un animateur. Oui, c'est clair, mais on a un animateur qui dit pourtant un animateur qui est présent tout le temps, qui s'appelle Monsieur Yann Barthès, et qui dit en fait ta gueule à un autre présentateur d'une chaîne concurrente. Voilà, donc c'est comme ça.
Mais que fait Monsieur Bouygues?
Mais oui, que fait Monsieur Bouygues? Exactement.
Un jeune présentateur de CNews.
C'est ça, Gauthier Lebret.
Ouais, absolument. Incroyable. Alors, écoutez, on va reposer une autre question. Tiens, on va demander à notre ami Mélenchon pourquoi finalement? Pourquoi est-ce qu'il faudrait supprimer CNews?
Dans ce pays, il y a un candidat secret. Il y a un candidat qui ne vient pas devant la scène. Il y a un candidat qui tire les ficelles d'une série de marionnettes. Il s'appelle Bolloré. Il possède des journaux, il possède des télés, il possède des radios, il possède des maisons d'édition. Il lui suffit de faire démarrer par les diverses bandes fascistes qu'il a dans sa poche un événement ici ou là et le faire monter assez sur X, qui est, comme vous le savez, muni d'algorithmes tout à fait spéciaux. Eh bien, il suffit de faire monter, et à ce moment-là, ça passe de la sphère des réseaux sociaux à la sphère des radios d'abord, par exemple Europe 1, et de là aux télés d'information en continu, par exemple CNews, et de là vers les grands médias, car vous comprenez, monsieur Mélenchon, on ne peut pas passer à côté de l'actualité.
C'est encore une des composantes classiques du totalitarisme, c'est le complotisme.
Ben oui,
donc là
ça va loin. Juste, il nous dit quand même que Bolloré donc manipule des bandes fascistes, hein, que ces bandes fascistes alimentent donc des réseaux sociaux avec des images, etc., que tout ça est repris par Europe 1, que ça passe à CNews dans la foulée, et que du coup les grands médias disent bah voilà, c'est passé à CNews, on est bien obligé d'en parler. Hein. Et mais donc il y a un système extrêmement organisé.
C'est du stalinisme dans le texte.
C'est ça, du trotskisme, en fait.
Donc je veux dire, c'est du trotskisme chimiquement pur, je dirais.
Non, mais moi, ce que je trouve réjouissant, c'est que
Damien Chalamel,
cette tournure d'esprit qui est le complotisme, qui était quand même, avouons-le, c'était une tare qui était assez répandue dans certains milieux de droite nationale, dirons-nous. Eh bien, ce mistigri du complotisme, ainsi qu'un autre mistigri, dont je tairai le nom, eh bien, il est passé, ou il est revenu, parce que peut-être qu'il l'était, en fait, à l'extrême-gauche. Donc, je trouve ça formidable. Donc, on a fini l'affaire Dreyfus, donc pour dire pour l'autre mistigri, qui est l'antisémitisme, qui est revenu, qui était à gauche et qui est revenu à l'extrême gauche, et le complotisme,
en tous les cas,
il est sur ce. Eh bien, messieurs, bon vent.
Mais c'est parce que historiquement, encore une fois, moi je prétends que Hitler et Mussolini n'ont rien inventé. Philippe le grand Charles. Inventeur, c'est Staline, c'est lui qui a tout inventé.
Un petit peu.
Et le texte, le discours de Mélenchon que vous venez de passer, moi, il me fait penser à ces dessins antisémites. On voit des gens au nez crochu, n'est-ce pas, et qui sont en train de tirer toutes les marionnettes de la presse, des médias, des banques, etc.
Exactement.
Ça fait penser exactement à ça. C'est quand même aberrant que cette comparaison soit pas suffisamment.
Par contre, il faut quand même lui reconnaître ce que tout le monde n'a pas, un certain talent oratoire.
Ah bah oui, oui, Hitler avait du talent oratoire aussi.
Imaginez une seconde que Jordan Bardella ait dit la même chose sur n'importe quel actionnaire plutôt à gauche, mettons Monsieur Bouygues par exemple.
Le raz de marée.
Imaginez, qu'est-ce qui se serait passé? Moi, je vous le dis, ça ouvrirait tous les journaux des grandes télévisions, ça ferait la une de tous les médias, on en aurait pour 3 semaines, et là, ça serait un tir de barrage.
Je ne sais pas si on peut dire que Bouygues est à gauche.
Complotisme. Non, mais je pense à Quotidien, qui est sur la chaîne TMC et qui est chez Bouygues.
Mais un gage donné au système.
Ouais. Voilà. Et en tout cas, ça ferait la une de Quotidien et ça ferait la une de beaucoup
Il dirait ça de Mathieu Pigas ou d'un autre, ça serait un tollé général.
Mais un tollé absolument monstrueux. Ouais, il y aurait des manifestations, ça serait incroyable. Mais là, ça passe, crème, comme on dit. Tranquillement. Voilà, allez, un dernier petit extrait. Bolloré, il explique qu'il est vraiment la synthèse du mal. Et on va voir pourquoi.
Je suis l'ennemi commun type. Je suis le bouc émissaire parfait. Je suis le paratonnerre idéal. Parce que je représente toutes les cases que la caste n'aime pas. Voilà, des origines familiales, des entreprises avec des salariés qui ont l'air heureux de travailler en Bretagne. Il y a même une chapelle dans le jardin, alors vous rendez compte. Ça, c'est le pire du pire. Il faut trouver un ennemi commun, et je suis l'ennemi commun parfait.
Voilà Vincent Bolloré qui explique pourquoi on ne l'aime pas. Et c'est vrai qu'il cumule pas mal. Hein.
Il a tout dit.
Il a tout dit et il reprend un petit peu ce que vous disiez, Gérard Gachet, tout à l'heure.
Non, c'est moi qui ai repris ce qu'il disait.
Oui, vous qui aviez... Enfin, vous vous êtes co-inspiré l'un l'autre, on va dire.
Non, et puis en plus, il le dit avec Philippe un certain Charlaise. Humour. C'est ça qui
Il est quand même très drôle. Ça, c'est vrai que
c'est très drôle. Enfin, globalement, il le dit avec humour, mais enfin, il leur... Il se fout vraiment d'eux, quoi. C'est vraiment ce qu'on peut ressentir.
Oui, c'est assez manifeste. Damien Chalamel.
Non, mais je suis pas aussi admiratif que vous de Vincent Bolloré.
Mais
en l'occurrence.
Mais je me réjouis effectivement de cette ironie. Enfin, de cette ironie. Voilà, il survient là comme ça. Il arrive un peu comme
un certain cynisme, même.
Oui, non, mais il arrive comme ça. C'est un peu le. Il vient mettre un petit peu de. Un petit peu de sel, de piment,
poivre, de poivre la gratter,
dans cette commission qui est souvent un peu ronronne.
Et c'est toujours la commission.
Et là, il arrive très débonnaire,
c'est toujours la commission.
Et d'habitude, en plus, vous avez remarqué que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est le rapporteur, hein, l'excellent à l'oncle, qui fait passer sur le grill les personnes auditionnées. Et là, c'est plutôt l'inverse. D'abord, c'est le président. Il est beaucoup plus en retrait d'habitude, qui prend la parole, mais c'est la personne auditionnée elle-même qui, par son propos, vient un peu mettre un peu de.
Un des membres de la commission lui a demandé à Vincent Bolloré s'il l'avait rencontré avant M. Allon,
qu'il le connaissait. Il a dit qu'il l'attendait sur un fauteuil.
Il a dit non, je l'ai rencontré en arrivant, etc.
Mais qu'il était très sympathique
et très actif.
C'est ça. Voilà.
Et très efficace.
Elle se termine quand cette commission? Parce que ça dure depuis. J'ai l'impression que
bientôt,
c'est interminable.
Bientôt.
Hein. Alors la question, il faudra savoir notamment si le rapport est adopté.
Oui.
S'il va être publié.
Exactement.
Publié d'abord.
Absolument.
Oui. Mais, adopté et publié.
Mais le président de la commission a quand même précisé, jeudi ou mercredi, je ne sais plus, lors de la commission l'audition de Bolloré, que le rapport ne serait a priori publié. Il l'a dit devant l'ensemble de la commission.
Et il a déjà dit que la commission, il s'exprimait en tant que président, avait d'ores et déjà mis à jour des dérives évidentes au sein des dysfonctionnements manifestes au sein de l'audiovisuel public.
Absolument. Donc, voilà, moi j'ai bien connu la mère de ce député qui préside qui était journaliste. C'était une journaliste, Jérémy Patrier-Lettus. Il a une mère qui était extrêmement brillante, d'une part, et extrêmement courageuse. Et donc, voilà, je pense que le fils...
Et qui n'était pas de gauche.
Doit pouvoir... Il a été assez critiqué, je pense, de manière un petit peu injuste.
Il est de la Macronie, hein, je crois.
Il est Horizon.
Horizon. Il fait partie de la...
De la majorité.
Absolument, voilà. Allez, on va parler un peu culture.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et toujours avec Baptiste Mousseau, Damien Chalamel, Gérard Gachet et Philippe Charlaise. Allez, c'est le moment des recommandations culturelles. C'est notre petite bouillon de culture, on va dire. Gérard Gachet, par exemple.
Eh bien, je vais en profiter pour rendre hommage à un homme de gauche. Vous voyez, comme ça, on va faire un peu plus rime. C'est un homme de gauche, puisque l'homme dont je vais parler a soutenu Ségolène Royal dans le passé, François Hollande, Manuel Valls, et plus récemment, d'ailleurs, Emmanuel Grégoire pour la mairie de Paris. Mais cet homme de gauche, il n'hésite pas à être par moments en rupture avec son camp, puisqu'il c'est également un aficionado convaincu, un partisan des corridas. Il a même signé une pétition pour les corridas dans les colonnes du Figaro, ce qui aggrave son cas.
Ouais, alors tout est pardonné.
Je parle évidemment de l'excellent Denis Podalydès, acteur, metteur en scène, scénariste et écrivain. Cet homme a quand même été capable de jouer aussi bien Nicolas Sarkozy au cinéma, dans le film La Conquête, en 2011, que plus récemment François Mitterrand à la télévision, dans le documentaire Mitterrand, enfin le documentaire, le biopic Mitterrand confidentiel. Et voilà que, après avoir mis en scène les fourberies de Scapin à la Comédie Française, il n'y a pas très longtemps, dont il est d'ailleurs Comédie Française, dont il est un des sociétaires, le voici qui présente depuis hier le Cid de Corneille au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, c'est-à-dire c'est la Comédie Française qui joue hors les murs, comme on dit, puisque la salle est en travaux, avec Benjamin Laverne et Suliane Brahim. Ben, je dois dire que moi j'avais vu d'ailleurs récemment les fourberies de Scapin à la Comédie Française dans sa mise en scène. Je dois dire que je suis assez bluffé par les talents multiples de cet homme, encore une fois, acteur, metteur en scène, scénariste. Et je trouve que c'est un bel exemple de créativité et d'activisme culturel dans le meilleur sens du terme. Et voilà, je voulais tirer un petit coup de chapeau à monsieur Denis Podalydès.
Denis Podalydès, bravo pour ce coup de chapeau, cher Gérard, ça mérite le détour. Et moi, je voulais vous parler d'une série Netflix. Voilà, une petite série Netflix, 10 épisodes de 45 minutes, hein, c'est mon côté populaire. Voilà, ça s'appelle 1883, avec des acteurs que moi je ne connaissais pas, en tout cas, Tim McGraw, Faith Hill, Sam Elliott et Isabelle May. Et en fait, ça raconte l'histoire, donc ça se situe évidemment en 1883 aux États-Unis. C'est l'histoire d'un ancien capitaine de l'armée confédérée qui quitte le Texas avec sa famille et il emmène sa femme, sa Margaret, et puis sa fille adolescente et son jeune fils, et ils partent pour l'Oregon dont il rêve. C'est le dernier bastion de l'Amérique sauvage, et il va rencontrer un espèce de shérif rugueux qui accompagne une caravane de migrants qui vont vers l'Oregon. On trouve là-dedans des cow-boys, des gens très religieux, etc., des vétérans de l'armée, et ils vont rencontrer un certain nombre de périls et faire le coup de feu. Il y a des personnages qui sont assez extraordinaires. La fille de ce capitaine est très séduisante et elle découvre un peu la vie. Et il y a des caractères incroyables de voleurs, de drôles de cocos là-dedans, des attaques de cow-boys qui sont des bandits de la plaine, on va dire, qui attaquent cette caravane. C'est en même temps très profond. Il y a de temps en temps des dégagements de souvenirs, si vous voulez, qui sont ceux de la petite jeune fille. C'est très poétique, très fort. C'est vraiment une leçon de vie, je trouve, assez impitoyable sur l'Ouest américain. On comprend les racines de ces Américains courageux et patriotes en regardant ce feuilleton 1883, une dizaine d'épisodes. Voilà, quelques belles figures de femmes et d'hommes, je trouve ça pas mal du tout. Voilà,
Make America Great Again.
Make America, c'est assez Make America Great Again.
Ça me rappelle un film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui est sorti dans les années 60, qui s'appelait La Conquête de l'Ouest.
Il y a vraiment de ça. Allez, restons courtois du vendredi, c'est fini. Merci à vous tous dans ce studio. Merci à Jocelyn, à la technique. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivi, accompagné, commenté, heureux d'avoir passé ces deux petites heures en votre compagnie. Comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie, vous le savez, reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie et Boulevard Voltaire dans le climat actuel, c'est un devoir, mais vous le savez. Nous, on se retrouve le vendredi 3 avril à l'avant-veille de Pâques, même heure, même adresse, restons courtois. 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.